enregistré. Voilà. Merci, je sais que tu regardais. La dernière fois, on avait parlé de la gentillesse, hein, par rapport aux fruits de l'esprit. Et on le répète de temps en temps, pas à chaque fois, mais l'une des choses que j'aime avec cette image que Dieu a choisi de nous donner par rapport aux fruits de l'esprit, c'est qu'un fruit a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Ça peut commencer comme un noyau et ça grandit. Et un fruit, ça doit de grandir, sinon elle reste inutile. Et elle doit également mûrir. Combien de fois est-ce qu'on a croqué dans quelque chose qui n'était pas encore mûr? C'était amer, c'était autre chose. Bien entendu, si on attend trop, ça va dans l'autre sens, ça commence à pourrir. Mais ça c'est une autre histoire. Mais juste dans l'image du fruit, on voit qu'on n'est pas supposé rester tel qu'on est. On est supposé continuer et à grandir. Et le prochain fruit de l'esprit, c'est celui de la bienveillance. Le Galates 5, 22, avec cette liste, et on voit qu'on le répète, hein, ça ne parle pas des fruits de l'esprit, ça parle du fruit. D'une manière grammaticale, c'est incorrect, mais d'une manière biblique, ça l'est. Si on parle d'un fruit et ensuite on donne 9 caractéristiques, on dit c'est 9 fruits. Non, ce ne sont pas 9 fruits, c'est un seul fruit. C'est le travail du Saint-Esprit va vouloir ajouter toutes ces choses, nous aider à grandir et à mûrir dans toutes ces choses, pas juste quelques-unes ou celles qui nous sont plus faciles à faire que d'autres. Il veut qu'on grandisse et on mûrisse dans chacune de ces caractéristiques. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Lui ne va pas se satisfaire de seulement nous aider à apprendre à faire ce qui nous est facile ou plus facile. Parce que, en fait, quand on voit en détail ce que sont chaque chose, aucune d'elles ne sont faciles. Mais la bienveillance, elle peut être définie, hein, par le fait de s'offrir soi-même et ses biens, dans le sens que c'est la bonté dans le sens le plus pur. C'est-à-dire qu'on fait moins cas de sa personne pour le bénéfice de l'autre. Et on ne retient rien pour aider l'autre personne. C'est ce que ce mot veut vraiment dire dans bienveillance. Un autre passage où ce même mot en grec est trouvé, se trouve en Romains chapitre 15, verset 14, qui nous dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Ce même mot « bienveillance » se trouve dans la phrase « plein de bonnes dispositions ». Nous, on doit traduire ce mot par une phrase, mais c'est un seul mot, c'est le même mot que nous avons dans la liste de Galates 5, 22, du fruit de l'esprit, pour bienveillance. Vous êtes plein de bonnes dispositions. Et la bienveillance, ben, ça va inclure tout ce que cela, ça comprend, tout ce que ça va inclure l'hospitalité, par exemple. Et tous les actes de bonté qui découlent, ben, d'un cœur généreux, qui cherche le bien de l'autre, plus intéressé à donner que de recevoir, plein de bonnes dispositions. En Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Cette parole est certaine. Autrement dit, on ne peut pas la discuter, la remettre en doute. « Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Ça décrit la bienveillance que le Saint-Esprit veut inclure, veut nous aider à faire grandir et mûrir dans la vie de chaque croyant. Il commence le passage en disant « Il nous a sauvés, pas à cause de qui vous êtes, pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais par sa miséricorde. » C'est la première chose qu'il mentionne de pourquoi il nous a sauvés. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il ne donne pas ce qu'on mérite, justement. C'est ça la miséricorde. On mérite d'être puni. on mérite la mort qui est le salaire de notre péché. Il a dit, mais ça je le retiens. Il arrivera un jour où si vous continuez à refuser mon salut et que vous vous tenez devant moi, ben là j'aurai plus le choix. Vous allez à la mort éternelle. Mais dans ma miséricorde, je ne vous donne pas ce que vous méritez tout de suite. Je vous laisse le temps de votre vie jusqu'à votre dernier souffle de pouvoir changer. On est sauvé, non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Et par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il parle également du rôle que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie à un moment de notre salut et après notre salut. Et cette parole est certaine, je veux que tu affirmes. Pourquoi est-ce que je veux que tu affirmes ces choses? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Maintenant, on ne va plus faire des bonnes œuvres pour être vu, pour recevoir le salut, pour recevoir les bénédictions de Dieu même. On n'est plus en train de faire ce que le monde appelle la bienveillance, les bonnes œuvres pour les autres, de la manière qu'eux, ils le font. On le fait parce qu'on sait qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, qui nous a fait miséricorde, et qu'on ne mérite pas ce salut. Et que, comme Dieu m'a fait une faveur, m'a accordé toutes ces bénédictions envers moi que je ne mérite pas, je peux faire ces actes de bonté humaine, quotidienne, en reconnaissance pour lui. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous savez, généralement, on n'aime pas l'admettre, mais on sait que notre nature pécheresse est extrêmement égoïste. Avant notre salut, et même après notre salut, on a encore beaucoup de mal, on doit lutter avec notre ego, notre égoïsme. Après notre salut, on est prêt à faire certaines choses qu'on n'était pas prêt à faire avant notre salut, mais on met des limites quand même. On a tous nos limites, malheureusement. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi, vont être là pour nous rappeler justement qu'on doit pratiquer la bienveillance, que ce n'est pas juste une façon de penser que je dois avoir un amour pour les autres, d'accord, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose, mais je dois vouloir faire. C'est vraiment quelque chose qui se met en pratique. Et le Saint-Esprit, pour le faire, il va nous aider à apprendre, à prendre plus de plaisir, à agir en faveur des autres, que de penser à notre propre confort ou plaisir personnel. Et c'est là où ça va clasher avec le monde, avec la manière que le monde fait des certaines choses. Mais c'est vraiment que le Saint-Esprit qui peut nous apprendre à pas seulement faire ces actes de bonté, à avoir cette bienveillance de vouloir le bien des autres, même au prix des choses que moi j'aimerais avoir ou faire, mais d'y prendre plaisir. C'est pas, je dois le faire par obéissance. Je le fais parce que Dieu a dit que je dois. Je le dis parce que je ne veux pas faire contre Dieu. Ça, c'est le début. C'est des choses que le Saint-Esprit pourra aider à nous apprendre. Mais lui, s'il désire nous aider à grandir dans le fruit de l'Esprit, et la vraie bienveillance, c'est de pouvoir faire ces actes de bonté avec joie. Que ce n'est pas forcé. Que ce n'est pas à contre-cœur. C'est pas... On disait tout à l'heure où... quand les enfants doivent dire merci pour le repas, etc., et dire d'y aller, et dire merci. Mais c'est pas ça. Mais quand on voit que la personne est sincère, ça se voit tout de suite. Déjà, généralement, quand elle est sincère, on n'a même pas besoin de le pousser pour l'encourager à le faire, n'est-ce pas? Ça vient naturellement, ça vient tout seul. Et le Saint-Esprit va nous aider à... Parce que ça va, c'est un apprentissage. À apprendre, à prendre plaisir à faire ces actes de bonté pour les autres, même si ça nous coûte quelque chose. On va continuer à faire des choses qui nous font plaisir. Ça veut pas dire qu'on ne fera plus rien maintenant pour nous. C'est pas ça que ça dit. Mais on ne fera pas... On ne va plus se faire plaisir au détriment du besoin de quelqu'un d'autre. Je vois que quelqu'un y a un besoin. Moi, j'ai envie de me faire plaisir avec ceci, mais j'accepte de faire sans ce que j'aurais voulu pour le bien de l'autre. Alors que sans l'aide du Saint-Esprit, ouais, je voudrais bien l'aider et on serait sincèrement désolé pour eux. Et bah, tant pis, hein, puis on se fait plaisir. Ça, c'est notre nature normale, naturelle, sans l'influence du Saint-Esprit, ou quand on décide de ne pas l'écouter. Et vous savez, on a parlé au tout début des quatre tempéraments, et ils sont tous les quatre, ont une tendance naturelle vers l'égoïsme, parce que ça, c'est une nature de base de notre nature pécheresse, personne n'y échappe. Et donc, peu importe quel tempérament de base nous sommes qui est dominant, on a tous besoin de cette bienveillance. On a tous besoin d'apprendre et de laisser le Saint-Esprit nous apprendre à mettre en pratique des bonnes œuvres d'une manière où ça nous fait plaisir de le faire. Un autre passage est en Actes chapitre 20, verset 35. Dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut être parfois étonné que même les inconvertis connaissent cette dernière phrase. Beaucoup d'inconvertis citent cette dernière phrase sans même savoir que ils sont en train de citer un passage de la Bible. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, mais c'est beau! Ils croient que c'est un philosophe ou un historien ou quelque chose, quelqu'un qui l'a dit. Oui, c'est effectivement un historien, c'est mais pas celui qu'il pense. Il dit, je vous ai montré de par mon exemple qu'il faut travailler, donc c'est un effort pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles de Dieu lui-même, du Seigneur Christ, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et recevoir de bonnes impulsions est une chose, hein, d'avoir envie de faire le bien. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, jusqu'à ce qu'ils réfléchissent à combien est-ce que ça va me coûter. Mais de transformer nos pensées en actes de bonté, ça c'est une toute autre chose, c'est une toute autre affaire, n'est-ce pas? Et on va y venir dans un instant. Mais nous devons faire l'effort de vouloir faire le bien pour ensuite avoir la foi que Dieu nous aidera à faire ce qui lui est agréable à lui, même si on doit faire le second mille. Le verset qui n'est pas mis là, le verset 41, nous dit, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. On en a fait référence dimanche. Mais tout le contexte de ce passage, c'est de bien vouloir faire le bien pour quelqu'un d'autre, et non penser à soi-même ou de vouloir rendre l'appareil. Les trois versets juste avant celui de bien vouloir faire le second mille, ce sont ces trois versets-là. Mais vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et souvent, quand je parle de ces versets-là, même envers les chrétiens, vous savez la première chose qu'on me dit, on veut discuter sur le sens littéral, direct de cette parole. Oh, ça veut dire que si tu me frappes, il faut que je te laisse encore me frapper une deuxième fois. Il rate complètement l'enseignement global qui est donné dans ce passage, qui est celui, on n'agit pas comme le monde. On n'essaie pas de se faire justice soi-même. On n'essaie pas de rendre la pareille. On doit être rempli de bienveillance, de vouloir le bien de l'autre et non vouloir se justifier, vouloir se venger, vouloir se rendre l'appareil. Oh, mais je lui ai dit ces quatre vérités et puis il a pas aimé, mais moi ça m'a fait du bien. Pour le monde, je le comprends. Pour le chrétien qui doit être rempli de l'esprit, non. On peut dire certaines vérités, mais avec amour, dans le but de vouloir aider l'autre personne et non pour se décharger de quelque chose que j'avais ça sur moi, il fallait que je lui dise. Et le Saint-Esprit veut changer notre caractère qui est naturellement égoïste, qui sera toutes ces choses, qui sera œil pour œil, dent pour dent, qui tu me frappes sur la joue, moi je te frappe sur l'autre. Ça, c'est notre nature égoïste qui voudra ça. Et on voudra le justifier. Et par rapport au monde dira, c'est justifiable. Mais le Saint-Esprit veut changer notre caractère pour qu'on ait envie, qu'on prenne même plaisir dans les œuvres de bienveillance pour l'autre, de faire du bien à l'autre. Non parce qu'il le mérite, non pour recevoir quelque chose en retour, mais de la même manière que Dieu nous a donné son salut qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il s'est montré miséricordieux d'abord, et ensuite nous a fait plein de grâce. Et nous savons que c'est forcément la volonté de Dieu qu'on montre cette bienveillance envers sa création, et donc on le fait pour lui. La raison de pourquoi on n'est pas obligé de frapper l'autre qui nous frappe, ou de nous venger, ou de faire le second mille, ou de ne pas faire œil pour œil, c'est à cause de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ma réaction envers l'autre n'a rien à voir avec lui, ça a tout à voir avec ma relation envers Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon être, de toute ma force, de toute ma pensée, je ferai ce que lui veut, et non ce que je veux ou ce qui me plaît. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? On le sait bien que non. Je ne vais pas vous dire que je le fais toujours non plus. Et je l'ai dit dans le passé aussi. Parfois, c'est plus facile que... Si quelqu'un vient et me frappe sur la joue droite, c'est déjà arrivé. Il m'est plus... Je ne dis pas que c'est facile. Je dis plus facile pour moi d'accepter à ce qu'il me frappe sans que je ne le frappe en retour que s'il frappe Suzanne. J'aurais une autre réaction. Mais la volonté du Saint-Esprit de faire mûrir son fruit en nous, ça ne sera jamais de rendre l'appareil. On a vu les passages en Matthieu. On peut également voir les versets qui viennent après. On a vu le verset 41, on reprend à partir du verset 43, il dit « Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est ce qui est normal dans le monde. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Il nous donne ensuite la raison, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père. » Autrement dit, pour qu'on puisse reconnaître qui est votre Père. Que votre Père, ce n'est pas vous, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que vous êtes obéissant à sa volonté avant tout, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? À deux reprises dans ce passage, il nous dit... Vous avez appris ceci, mais moi je vous dis. Ce que Christ nous enseigne, ce que le Saint-Esprit va vouloir nous enseigner, doit toujours être plus important que ce que le monde croit être normal, ou ce que notre chair, notre nature pécheresse et notre ego voudra justifier. Dit non, ce n'est pas justifiable, ce n'est pas acceptable. Je veux que tu aimes tes ennemis. Je veux que tu bénisses ceux qui te maudissent. Je veux que tu fasses du bien envers ceux qui te haïssent. Je suis désolé, si quelqu'un en est arrivé à ce point-là dans sa vie où il me dit qu'il me haït, ce n'est pas juste quelque chose qu'il garde en lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui il ne m'aime pas. Ça, il peut le garder en lui-même, je ne le saurais peut-être jamais. Juste avec peut-être de temps en temps quelques regards. Quelqu'un qui m'a vraiment en horreur, il me le fera savoir quand on croise le chemin. Et bien entendu, pas de façon bien agréable. Il dit, faites du bien envers eux. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, on ne peut pas être plus clair que ce n'est pas juste des pensées, ce n'est même pas que des paroles, ça peut être même physique, comme si tu œil pour œil, dent pour dent, il te joue, il te frappe sur ta joue, droite, etc. Priez pour ceux qui te maltraitent et qui vous persécutent. Ils n'étaient pas encore, ça c'était en Matthieu, Matthieu chapitre 5, 44, c'était pas encore le livre des actes, ça va arriver très rapidement. où la persécution de l'Église allait devenir quelque chose de bien plus réel pour eux. Il leur donnait déjà des enseignements pour les préparer. Priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Ce sont des choses qui sont faciles à dire et faciles à comprendre à la surface intellectuelle. Mais qui d'entre nous diront que c'est facile à mettre en pratique? Quotidiennement, régulièrement. Mais croyons-nous que je puis tout par celui qui me fortifie ou non? Est-ce que je crois que Dieu me demande de faire quelque chose que lui sait est impossible pour moi de pouvoir mettre en pratique, même avec l'aide du Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il me demande de faire quelque chose que fais-moi confiance, la foi, que le Saint-Esprit te donnera la force, la grâce, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, de faire ce qui normalement est contradictoire avec ta chair. Toutes ces choses sont contradictoires de ce que nous comprenons comme étant juste. Mais pas pour le Saint-Esprit. Pour lui, ce n'est pas contradictoire. Alors, Dieu voulant, hein, la prochaine fois, il y a les trois derniers caractéristiques, hein, la foi, la douceur et ensuite la maîtrise de soi. Donc on parlera de la foi et il y a beaucoup de choses à dire, donc ce sera peut-être un peu plus long par rapport à la foi, surtout s'il y a des questions et commentaires, mais c'est un peu comme les prédications qu'on a commencé dimanche, il parle d'ajouter à notre foi à la vertu, à la connaissance, etc. Je vois beaucoup de similitudes entre les deux choses. Et Dieu voulant, on verra ce dimanche, justement, qu'est-ce que c'est que cette vertu dont il parle. Mais l'une des choses qui est similaire, c'est que justement, un caractéristique affecte l'autre. Bon, si je peux revenir. Je sais plus comment. Ouais, peut-être pas. Oh. Je sais plus. Ouais, voilà. Bon, ben, j'y arrive pas. Je connais pas bien ce programme encore. Bon, c'est pas grave. Mais quand on voit chaque chose qu'on a déjà dû apprendre, il y en avait cinq, ça c'était le sixième, celui de la bienveillance. Et on voit de comment on avait commencé avec l'amour, justement. Et ça commence avec l'amour que nous avons pour Dieu, avant que nous puissions avoir l'amour qu'on doit avoir pour les autres. Il n'a pas commencé avec la bienveillance, parce que la bienveillance, elle est envers les autres. Ce n'est pas de la bienveillance qu'on doit avoir envers Dieu. C'est exactement la manière qu'on doit traiter les autres autour de nous. Mais ça commence avec l'amour qu'on doit avoir pour Dieu d'abord, avant de montrer cet amour pour les autres. Et ensuite, ça parlait de cette patience, de cette longanimité, de bien vouloir souffrir dans la durée. Et donc, de pouvoir supporter les choses qu'on a écrites, de nos ennemis, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous veulent du mal, qui nous haïssent, etc. De vouloir supporter avec cette attitude positive qui nous aide justement à avoir cette bienveillance. Une chose qui affecte l'autre. C'est pour ça que c'est un fruit et pas des fruits qu'on met ensemble. Mais le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit voudra que tu agisses de cette façon-là quand tu mets toutes ces choses dans son ensemble. Pas juste, ah, là, il faut que je monte dans la bienveillance et la bienveillance, elle est toute seule, dans une catégorie toute seule. Non, j'agis parce que j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je vais, par amour pour cette personne, alors qu'elle ne le mérite pas, montrer de la miséricorde et de la grâce, et me montrer bien envers elle. C'est parce que j'aime Dieu, je lui fais confiance, on va avoir la foi, que je peux me montrer patient, lui faire confiance qu'il pourvoira, et que cette chose désagréable par laquelle je passe, il le transformera pour mon bien malgré tout. C'est un tout, et je ne vais pas continuer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Par rapport à la bienveillance ou un autre fruit de l'esprit qu'on n'a pas encore vu. Donc vous voyez déjà les prochains chapitres, je suis en train de travailler dessus. J'en suis à éteindre le Saint-Esprit. Pour l'instant, on va parler de comment justement être rempli d'une manière plus spécifique. On va parler de ces deux passages. Il y a deux passages spécifiques, un qui parle d'attrister le Saint-Esprit, l'autre qui parle d'éteindre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire et de quelle façon on peut faire cela et donc de quelle façon on peut prévenir, ne pas faire ces choses. Dieu vous lance en futur. Commentaire?
Tendre la joue.